autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, à l'ombre de nos arbres, dans la forêt peut-être, pour chercher une nouvelle inspiration auprès de ces géants protecteurs et nourriciers qui incarnent une autre manière de vivre et d'habiter la terre. Pourquoi et comment redécouvrir le génie de l'arbre, sa majesté, sa frugalité, son ingéniosité à occuper l'espace, à s'adapter et à générer d'infinies ressources à partir de presque rien. Même si les arbres sont loin d'avoir livré tous leurs secrets, les récentes découvertes sur leur communication, leur intelligence, inspire non seulement le respect, mais aussi la réflexion de nombreux chercheurs, penseurs, artistes, scientifiques réunis dans une grande exposition « Nous et les arbres » à la Fondation Cartier. Pourquoi et comment nous inspirer de ces autres êtres vivants ? 3000 milliards d'arbres tout de même sur Terre. Et pour quelle alliance ? Voilà ce que nous allons nous demander avec le philosophe Emanuele Coccia, notre invité, autour de la question « Pourquoi nous et les arbres ?» Bienvenue.
Recherches récentes sur les arbres notamment semblent montrer des stratégies très novatrices, en tout cas on les ignorait jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que d'ici à quelques années, il ne faudra pas parler de sensibilité végétale ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui va s'ouvrir et qui va nous interroger de façon philosophique ?
Bonjour Emanuele Coccia.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager précisément votre réflexion philosophique entamée depuis plusieurs années déjà sur les arbres en particulier et les plantes en général. Vous êtes l'auteur entre autres de La vie sensible et de La vie des plantes, une métaphysique du mélange, maître de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes féru de biologie, ce qui explique peut-être pourquoi vous êtes un des premiers, Emanuele, à avoir osé faire de la philosophie, de la métaphysique même, à partir de la vie des plantes, de la vie des arbres. Aujourd'hui, vous n'êtes plus tout seul, loin de là, la preuve avec cette exposition multidisciplinaire à laquelle vous avez participé à la Fondation Cartier qui s'intitule « Nous, les arbres », c'est encore plus fort que ce que j'ai dit. La preuve aussi avec les énormes succès des livres qui traitent de l'intelligence des arbres. Qu'est-ce que cet intérêt pour les arbres dit de nous, Emanuele Coccia ?
Il dit de nous beaucoup de choses. Tout d'abord, il dit d'un changement de paradigme très fort qui a eu lieu dans la société, dans la culture générale, dans la biologie elle-même et dans la botanique. On peut déjà dire aujourd'hui que c'est une véritable mode de parler des arbres et des plantes. Cet retour aux plantes a été déclenché il y a quelques ans. Je pense que les déclencheurs pour la mode dans notre culture, dans le public plus large, a été un livre d'une garde forestière allemand qui s'appelle Peter Wolle, qui a eu un succès énorme en Allemagne tout d'abord et en France aussi. On parle vraiment de millions d'exemplaires vendus dans les deux pays. C'est ce livre et cet engouement pour les arbres, je pense que c'est les derniers aboutissements ou les derniers résultats d'une très très longue révolution, à la fois scientifique et culturelle, qui a commencé à mon avis à partir des années 60.
Et qui nous décentre, nous les humains, ou qui s'intéresse aux autres formes de vie?
C'est pas juste, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que si c'était juste une manière d'attaquer l'anthropocentrisme serait une des dernières modes. Non, ce dont les arbres ou les plantes ou cet amour pour les plantes qui a explosé dans les dernières années témoigne d'une chose beaucoup plus radicale et beaucoup plus forte, c'est la raison pour laquelle les plantes sont importantes. C'est à partir du moment où, en biologie, à partir des années 60, on s'est rendu compte que la force majeure qui guide l'évolution de la vie sur Terre, donc la force qui permet à la vie de se différencier, de s'améliorer, de se répandre sur la planète, ce n'est plus comme depuis Darwin, et même avant lui, depuis Linné, en fait, on était habitué à croire à ces conflits permanents des tous contre tous. mais c'est quelque chose de plus proche d'une entraide, d'une collaboration.
D'une alliance, d'une collaboration. Et en quoi les plantes, les découvertes scientifiques sur les plantes illustrent ça? Quand on parle de communication entre les plantes, vous avez aussi dans votre ouvrage sur la vie des plantes, la métaphysique du mélange, montré que ce règne végétal, par rapport au règne animal, il y a une grande différence, c'est qu'il ne se nourrit pas des autres. Il ne se nourrit pas de la mort des autres, c'est ça.
Tout à fait. Ça, comment dire, ce qui rend les plantes si précieuses pour la biologie aujourd'hui, c'est que il n'y a pas ce motif d'hostilité immédiate, de cette guerre de tous contre tous qui domine dans les règnes animaux, qui est l'hétérotrophie, c'est-à-dire la nécessité pour nous tous, nous même les humains, de nous nourrir pour vivre de la vie des autres, en fait, de l'énergie que d'autres vies ont pu accumuler dans leur existence. En fait, les plantes, évidemment, connaissent une forme d'hostilité, mais n'ont pas besoin de passer par cette hostilité, par les sacrifices des autres pour rester en vie, pour arriver à se déployer dans leur existence. Donc, du coup, grâce aux plantes, au fond, la biologie est obligée à contempler ce mystère et ces miracles d'une vie qui n'a pas besoin de détruire l'autre pour exister. Et qui, au contraire, parce que c'est ça un peu les buts même écologiques des arbres, qui produit une vie qui doit être vécue par d'autres vivants. Au fond, les grands mystères de toute plante, c'est que, en fait, c'est un être vivant qui bricole une vie dont la destinée est de passer dans d'autres êtres vivants. Qui est les grands miracles de toute vie. Donc c'est pour ça que tout cette mode autour des plantes est évidemment une mode, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond de ce que l'on imagine et qui surtout ne touche pas que aux plantes. Comme dire, dans cette redécouverte des plantes, on est en train de comprendre différemment les équilibres entre les vivants sur la planète. En fait, c'est pour ça que au fond, il faut à la fois s'accrocher, mais comprendre que les plantes sont ici à la fois, ils parlent pour elles-mêmes et pour tous les autres vivants, d'une certaine manière.
Surtout que l'exposition s'intitule bien « Nous, les arbres ». C'est-à-dire que nous avons peut-être à nous inspirer des arbres autour de la question, justement, pourquoi « Nous, les arbres ». Explication au micro de Sarah Tisser, de l'anthropologue Bruce Albert, qui est le commissaire de cette exposition à la Fondation Cartier, « Nous, les arbres ».
Le titre, c'est exactement ça, c'est le point de vue des arbres, les replacer au centre du monde vivant, parce que c'est la conséquence de toutes les recherches qui ont été faites depuis 20 ans, qui nous ont appris que les arbres communiquaient entre eux, qu'ils avaient une sensibilité, qu'ils avaient de la mémoire, qu'ils régulaient le climat, enfin, toutes sortes de propriétés qui étaient parfaitement inconnues. Auparavant, on considérait toujours les arbres comme de la matière secondaire, au maximum de la matière première du bois. Voilà, donc il y a eu un renversement de perspective complet depuis une vingtaine d'années, au moment où on les détruit systématiquement sur l'ensemble de la planète. Il y a une déforestation sur la Terre qui équivaut à deux fois la surface de Paris à peu près chaque mois ou quelque chose comme ça. Donc le pire, c'est dans les pays tropicaux où se trouve 80% de la biodiversité et aussi de la diversité culturelle, puisque toutes ces forêts primaires de la forêt tropicale sont habitées par des peuples autochtones. Et donc là, le rythme est encore beaucoup plus hallucinant. C'est un hectare à la minute au Brésil, en Malaisie et ailleurs. C'est l'équivalent d'un terrain de football à chaque minute qui disparaît de forêt tropicale et qui est absolument irremplaçable. Depuis Aristote, on vit sur une hiérarchisation des êtres vivants, avec tout en bas les végétaux, les arbres, à l'étage intermédiaire les animaux, et évidemment au sommet de la pyramide les êtres humains. C'est un peu l'équivalent d'une autre hiérarchie, cette fois des cultures, où on met en bas les sauvages, ceux qui vivent justement dans la forêt, ensuite les barbares, et au-dessus les civilisés, et encore une fois, c'est nous. Voilà, donc ces deux hiérarchies, elles sont connectées, et les arbres, les végétaux ont toujours été l'objet d'un mépris souverain. Voilà, on dit bien la vie végétative, ils végètent, etc. Donc toutes ces métaphores indiquent bien ce côté subalterne des arbres. On s'intéressait au bois et pour le reste, ça n'avait aucun intérêt.
Vous voulez réagir, Emmanuel Ecochea, à cet éclairage de l'anthropologue Bruce Albert, donc commissaire de cette exposition « Nous, les arbres » à la Fondation Cartier. Ses propos étaient recueillis par Sarah Tisser.
Et oui, tout à fait. D'ailleurs, le travail de Bruce Albert a été très important parce que, comme l'ont dit les titres, de fait, les buts de l'expo n'étaient pas tellement la volonté de mettre en scène les arts, ou de mettre en scène comment les arts en Occident et en dehors de l'Occident.
Ou pourquoi ça nous fait du bien. On a un peu tendance aujourd'hui à dire qu'il faut embrasser des arts. C'est pas ça le but de l'exposition.
Non, c'était vraiment de reconnaître cette subjectivité qu'on a pendant des siècles nié aux arbres, et donc c'est pour ça que les titres n'est pas une métaphore, ce n'est pas non plus un hasard, c'est vraiment les buts et l'essence de toute l'exposition. Et partir, et la présence des Bruce était importante parce que...
Il est anthropologue.
Il est anthropologue et c'est peut-être les plus grands anthropologues qui a travaillé autour de cette population, les Yanomami, qui comme d'autres populations amazoniennes, partaient du présupposé que les arbres sont des sujets à part entière. Donc, ont anticipé d'une certaine manière ou sont arrivés avec d'autres biais à ce que la botanique aujourd'hui ou la biologie aujourd'hui
nous dit que les arbres nous obligent à les considérer comme des sujets et pas seulement comme des objets.
Depuis une trentaine d'années, plusieurs botanistes un peu partout dans le monde ont commencé à nous obliger à reconnaître que les arbres sont plus sensibles que les animaux, sont capables de parfaitement se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont capables ils sont conscients de ce qui se passe à l'intérieur de leur propre corps. Ils sont
conscients, c'est des drôles de mots, mais c'est ça quand même.
C'est les mots exacts, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, ils réagissent en fonction de ce qui, de modification de ce qui se passe. Ils connaissent très bien la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est une définition minimale de conscience. Et ce n'est pas non plus quelque chose, comme il y a encore une fois, de métaphorique. C'est au contraire, ce qui est intéressant dans ces recherches, c'est qu'il nous montre à quel point la biologie a été pendant des siècles, d'une certaine manière, hypnotisée par la zoologie, c'est-à-dire la difficulté qu'on a de reconnaître que les arbres pensent, sont des sujets, sont sensibles, ont un moi, comme un chat ou un chien peuvent avoir un moi, ne relève pas d'un manque de preuves expérimentales, relève du fait qu'on, depuis des siècles, on demande toujours à des animaux de nous dire qu'est-ce que cela veut dire penser, qu'est-ce que c'est la pensée. Donc du coup, la réponse immédiate est toujours la présence d'un cerveau. Mais, comment dire, cette hypothèse cérébrale, cette espèce de fondement cérébral de la pensée, de la subjectivité, est juste la conséquence d'un biais ou d'une habitude méthodologique que nous n'avons jamais pu abandonner. Donc,
mais c'est compliqué de l'abandonner parce que, on y viendra, Emmanuel Ecochea, mais du coup, ça implique un changement, une révolution complète si les arbres sont sensibles, enfin, si les plantes sont sensibles, si elles communiquent, si elles réagissent, si elles ressentent à leur manière, sans un cerveau, mais avec un genre de autre système nerveux, une autre manière, ressentent quelque chose, ça change tout. Ça change tout dans nos rapports aux plantes, mais ça change dans nos rapports aux animaux.
Ça change vraiment tout.
Et voilà pourquoi le philosophe que vous êtes s'en empare.
Mais tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit au début que les plantes sont là aussi, non pas pour parler seulement d'elles-mêmes, mais pour changer un regard à la vie en tant que telle. Donc, vous dites que c'est compliqué, mais c'est vrai aussi les contrastes, que maintenant, on peut se rendre compte à quel point c'est ridicule de limiter l'intelligence à une partie tellement étroite. Parce que
les êtres vivants les plus nombreux, ce sont les plantes et les arbres. Ce n'est pas du tout les animaux.
Les problèmes, c'est que même au-delà des plantes ou des arbres, c'est d'un point de vue même épistémologique ou méthodologique, c'est ridicule de partir du présupposé que sans intelligence, une partie minimale, mais minimale, ça veut dire les 0,3% de formes de vie, c'est-à-dire les seules formes de vie qui ont un système cérébral. C'est minuscule par rapport, non pas juste aux plantes, par rapport aux bactéries, aux virus. N'importe quel vivant, évidemment, fait face à des problèmes. N'importe quel vivant, évidemment, doit connaître très bien la distinction entre le moi et le monde. N'importe quel vivant résout ses problèmes. Donc, n'importe quel vivant est conscient et communique avec l'extérieur. Même il y avait un philosophe des années 50 qui avait dit déjà à cette époque-là, avant toutes ces découvertes scientifiques, que la position qui relie l'intelligence au cerveau est ridicule parce que, au fond, si on dit l'intelligence réside dans les cerveaux, on devrait dire de l'embryon et de tout le développement embryonal qui, au fond, construit
le cerveau,
le système nerveux, qu'il est encore plus intelligent. Donc, voyez, toute cette position qu'on a longtemps défendue est une position intenable d'un point de vue scientifique et d'un point de vue surtout aussi philosophique.
Et ça en devient du coup une question quasiment politique, cette question des arbres, de l'intelligence avec tous les guillemets, ou de l'ingéniosité, ou d'autres formes d'intelligence, d'autres adaptations du vivant en général.
Tout à fait. Non, ce qui est intéressant, vous le disiez il y a un moment, c'est que au fond, cette découverte n'est pas juste intéressante parce qu'il nous donne toute une autre image de la vie végétale. Elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à tout changer dans notre vie, dans notre rapport au vivant. Elle nous oblige, par exemple, imaginez juste, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les conséquences sur les plans du débat autour de la consommation
de viande,
en fait. Parce qu'une raison, c'était que les plantes ne sont pas sensibles. Et bien, dès qu'on dit, si, sont sensibles, évidemment, il faut réduire la consommation de viande, mais on devra changer l'argumentation. Mais pas au-delà de ça. Par exemple, une chose que j'ai toujours trouvé curieuse, c'est le fait qu'on prête des noms à l'animal les plus absurdes, minuscules qu'on...
Ah, on va lui donner un petit nom, un prénom, on va lui donner un nom.
Oui, je sais pas, même un petit rat ou mais on s'y refuse depuis des siècles de reconnaître ce droit à la subjectivité, à avoir un nom, c'est-à-dire de voir une position d'égalité à tous les arbres, par exemple, qu'on côtoie à chaque fois qu'on sort les matins pour aller au travail.
Vous donnez un nom aux arbres que vous côtoyez?
Depuis un moment, oui, parce que d'ailleurs, les travaux et l'expo a été intéressant aussi pour ça, parce que ça m'a obligé à reconnaître, pas d'un point de vue scientifique, je le savais déjà, mais... Imaginez que, en fait, tout arbre qui est en face de vous est un sujet, quelqu'un qui est dit « moi », et qui a un âge incroyable, parce que la plupart des arbres qui sont à 8, par exemple, je ne sais pas, prenons le Quai Voltaire à Paris, et ses plants de platane, et bien ces platans sont des octogénaires qui sont là, qui vivent, et qui ont le même statut des sujets, des personnes, même si c'est un peu différent, que votre chat. Et de l'autre côté, par exemple, vous disiez « ça change tout ». Ça change tout parce que, prenons les cas des incendies en Amazonie. Si on reste sur les faits, les arbres, ce sont des êtres vivants un peu inférieurs, sans subjectivité, sans intelligence. Donc, du coup, on peut continuer à parler des incendies comme on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est les poumons verts ou ce sont des pierres vertes qui, au fond, ce sont des bâtiments qui... Alors qu'on ne s'y rend pas compte, mais un incendie en Amazonie, c'est l'équivalent d'un massacre d'une quantité des chats ou de baleines comparable à la population de la Chine.
On ne réagit pas assez si on les prenait un par un pour des individus, ce qu'ils sont, pour des sujets, chaque arbre,
on serait... Imaginez si un homme politique, si on pouvait reconnaître un homme politique comme responsable d'un génocide de 1 milliard de chats, on serait tous, ou de 300 millions de baleines, tous les mondes qu'on serait à flipper, parce que c'est un génocide, on parle d'assassinat en fait, pour les animaux désormais, c'est devenu normal. Pour les arbres, on ne se rend pas compte que on les a déjà brûlés dans la pensée, on les a déjà réduits à pierre en fait, ou à des instruments, et c'est pour ça que la révolution, d'une certaine manière, la révolution doit partir par la
traduction. De nous, de notre subjectivité, autour de la question pourquoi nous les arbres, j'aimerais proposer un nouvel éclairage, justement, à la fois scientifique et aussi subjectif. C'est celui du chercheur François Parcy, lui, spécialiste des plantes à fleurs, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de l'université de Grenoble. Francis Parcy et son équipe ont, entre autres, contribué à lever le voile sur l'origine de la formation des fleurs. Et il nous éclaire maintenant sur... l'enfance et l'adolescence, et oui, l'adolescence des arbres.
Ce qui est spécial chez les arbres, c'est qu'ils ont une enfance, ils ont une période qu'on appelle juvénile, et ça peut durer des années, ça peut durer 10 ans, 15 ans, ils ne font pas de fleurs. Et puis au bout d'un moment, se produit cette adolescence, et ils commencent à entrer en stade reproducteur, et chaque année, de façon répétée, ils vont refaire des fleurs.
l'adolescence des arbres, les arbres amoureux. Un autre chercheur avait publié un livre qui avait ce titre. Leur développement vous intéresse aussi, parce que là, pour le coup, ces arbres, même si on dit nous les arbres, ils ont un autre développement que le nôtre, mais infini.
Tout à fait. Non, c'est
qu'on peut envier. Hein.
Tout à fait. En plus, c'est une adolescence beaucoup plus difficile, si l'on veut, des animaux.
C'est des arbres que.
Mais oui, parce qu'imaginez un adolescent qui doit faire face, non pas là, au fond, au développement d'un seul organe sexuel, mais qui doit faire face à le développement chaque printemps de 150 organes sexuels au même temps. Parce qu'on oublie toujours que la fleur, c'est la combinaison en plus de deux organes sexuels. Je passe sur le fait qu'à chaque fois que on offre, c'est une boutade d'un botaniste français qui disait qu'à chaque fois qu'on offre des fleurs à quelqu'un, c'est les correspondre d'offrir à quelqu'un les vagins ou les pénis d'un chat.
Un bouquet de sexe, oui, c'est ça. Exactement. C'est ça.
Donc, du coup, c'est une adolescence et c'est une vie à la fois proche, mais très très différente. Une autre chose très belle, par exemple, vu qu'on parle du développement parmi les âges, c'est que les arbres ont cette capacité, au fond, que les animaux n'ont pas, d'avoir dompté et apprivoisé la mort. En fait, on réfléchit pas assez sur le fait que la grande majorité du tissu d'un arbre séculier ça change pour les individus et pour les espèces, mais les 80-85% d'un arbre, c'est surtout en hiver, c'est des tissus morts, en fait, complètement morts. Donc ça veut dire que, à la différence de nous, qu'on repousse vers l'extérieur tout ce qui est mort, un arbre, au fond, apprivoiser
la mort.
Et ce qui est mort en lui donne structure, forme, résistance, solidité. C'est incroyable, c'est d'une beauté cette capacité d'interagir différemment à ce qui, pour nous, est la source de peur majeure, en fait.
Donc, c'est, au fond, les arbres intéressent à double titre le philosophe et le métaphysicien
tout
que vous êtes.
C'est-à-dire
que ça, l'arbre, nous, les arbres, nous pose des questions métaphysiques. Une croissance infinie,
tout à fait,
ils auraient apprivoisé la mort.
Oui, tout à fait. Il nous montre à quel point... la vie, comment dire, à quel point nous devons commencer à repenser d'emblée ce qu'est la vie. Vous parliez par exemple de croissance infinie.
Oui.
C'est l'un des caractères les plus intéressants des arbres, mais de beaucoup de végétaux. C'est qu'à la différence de la plupart des corps animaux, des animaux qui arrêtent la croissance et s'arrêtent et se stabilisent autour d'une forme, tout arbre est obligé, comment dire, ne peut pas s'arrêter, est une espèce d'étrange body artiste qui doit à chaque fois refaçonner soi-même et se poser la question comment je vais être, en fait. Donc, et reconstruire des organes qu'il a jetés l'année précédente. Donc c'est vraiment une forme de vie où les designs de soi est la forme de l'être principal. Donc voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire? Imaginez d'être dans un corps qui doit être reconstruit et rébricolé tous les 3 mois, en fait. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'une certaine manière.
Autour de la question pourquoi nous les arbres, Emmanuel Ecochia, vous avez choisi, on continue dans l'extraordinaire, d'écouter Stevie Wonder sur RFI, qui en 79 déjà avait presque tout compris. The Secret Life of Plants sur RFI.
Autour de la question.
I can't conceive the nucleus of all begins inside the time. And what we see as insignificant provides the cure whose air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable be? A species smaller than the eye can see, or large
And yet we take from it without consent our shelter, food, a building. But who am I to doubt or question the inevitable?
Wonder sur RFI, The Secret Life of Plants, album sorti en 1979 déjà. Les artistes sont visionnaires, Emanuele Coccia.
Toujours, et c'est leur tâche. D'ailleurs, là, au fond, une bonne définition de l'art et de l'artiste, c'est un être vivant, ou un homme, une femme, qui vivent avec une avance de au moins un demi-siècle par rapport aux autres individus, en fait.
Donc Steve Wonder avait déjà bien compris avant cette vie secrète des arbres que les chercheurs commencent malgré tout à percer un peu. On découvre donc que les arbres communiquent par leurs racines, qu'ils ressentent à leur manière, qu'ils ont une forme d'intelligence, même si on est encore loin d'avoir percé tous leurs secrets et tous leurs mystères. Comme l'expliquait le formidable botaniste et biologiste Francis Allais, spécialiste et amoureux des arbres, qu'il étudie et qu'il dessine. Ses dessins sont d'ailleurs exposés dans cette exposition « Nous les arbres », à laquelle vous avez collaboré aussi en tant que philosophe, Emmanuel Coccia. Je vous propose d'écouter Francis Allais, c'était pendant la Nuit des Arbres, à la Fondation Cartier, au micro de Sarah Tisser.
Tout est à expliquer. Attendez, je prends un exemple récent. On nous dit que les feuilles, c'est extrêmement utile pour un arbre. Et comment ça se fait alors qu'il y a tellement d'arbres qui n'ont pas de feuilles? Vous allez dans les déserts mexicains, vous allez voir des grands cactus, 40 mètres de haut, pas de feuilles. Ils se débrouillent très bien. Donc tout est à inventer avec ces organismes-là, et c'est ça qui m'intéresse.
Tout est à inventer, tout reste à inventer. Emmanuele Coccia, vous en pensez quoi?
Et tout à fait. D'ailleurs, Francis a été l'un des grands protagonistes de cette nouvelle invention scientifique. Et tout à inventer parce que, comme je disais, sans qu'on les sache ou sans qu'on en soit conscient, la plupart des concepts de la biologie viennent de l'observation des animaux. Donc nous avons une science biologique qui reste entièrement zoocentrique.
C'est un peu comme, enfin, j'ai envie de faire ce parallèle-là, mais un peu comme en physique où il y a la matière noire qui est l'immensité de l'univers qu'on ne connaît pas. Au fond, finalement, tout ce règne végétal qu'on a longtemps méprisé nous ouvre aux biologistes et aux philosophes et aux artistes et aux chercheurs en général des pistes de réflexion inouïes.
Oui, c'est beaucoup plus que la matière noire parce que, par exemple, ce zoocentrisme a fait que, par exemple, tous les débats moraux ou tous les débats politiques, même après Darwin, n'a été qu'une extension aux animaux, c'est-à-dire en notre congénère, des privilèges qu'on réservait aux hommes et que tous les travaux de reconnaissance des subjectivités, mais même de ce que c'est la vie en dehors du royaume, du règne animal, là, doit être...
L'impression aussi qu'on a un peu... Enfin, disons qu'on a ouvert au règne animal, ouais, dans son ensemble, des choses qu'on pensait réservées aux hommes. Et puis aujourd'hui, quoi, on l'élargit au règne végétal. Il y a un peu de ça aussi.
Ça, et on devra petit à petit l'ouvrir à tous les autres. On devra petit à petit comprendre que la vie de chaque espèce et de chaque règne est une vie de fait... différentes mais identiques. Au fond, je pense qu'on n'a pas suffisamment intériorisé la signification fondamentale de la découverte darwinienne de l'évolution des espèces, c'est-à-dire les espèces ne sont pas des substances. Toute espèce est une expérience, une espèce d'étrange work in progress, mais qui a été commencée toujours par une espèce antérieure. Nous, les humains, par exemple, nous sommes une étrange expérimentation que les singes, les primates ont commencé il y a quelques centaines de milliers d'années, nous sommes des primates juste qui ont changé quelques petits détails dans leur corps et dans leur vie et qui vivent différemment. Et toute espèce conserve en elle les traces de toutes les femmes qu'elle a dû traverser avant d'arriver à ce que
donc nous, les arbres, nous avons en nous un peu d'arbre, un peu de végétal, un peu de vie végétale et pas du tout végétative, c'est ça?
Mais tout à fait. D'ailleurs, comment dire, nous ne cessons l'autre, parce que nous ne cessons pas de manger les végétaux. Donc même là, on n'a même pas besoin de passer par la généalogie. L'alimentation nous démontre que si un autre être vivant est capable de nous vivifier, ça veut dire que la vie qu'on partage est exactement la même vie. La vie d'un arbre est capable de passer du corps végétal, du corps de l'arbre ou du corps de la pomme au corps humain et inversement, parce que nous aussi nous serons mangés. Donc la vie est exactement ce qui traverse ces frontières qu'on se force de d'ériger entre les espèces, entre les règnes.
Donc il faut ouvrir les fenêtres, hein. Faut ouvrir les fenêtres.
Voilà. Et plus que les fenêtres en fait, il faut abattre les murs.
Alors il y a un autre auditeur, j'ai envie de vous lire son témoignage, il vient de Cotonou au Bénin, il s'appelle Navi Yaba, et il nous a écrit ce matin: je me suis rendu compte bien après les cours théoriques en SVT que réellement les arbres sont la condition sine qua non à la continuité de la vie sur Terre. Dès lors, j'ai choisi depuis juin 2016 de faire du reboisement à partir de deux espèces régénérescentes, à savoir l'acacia et le teck. Aujourd'hui, je suis émerveillée de voir mes arbustes d'acacia et mes jeunes plants de teck qui n'ont que 3 mois. J'ai pu emblaver 2 hectares. Je crois que je ferai plus si je peux être accompagnée. C'est crucial, l'arbre. Joli témoignage. Hein.
C'est très très beau. Il a vraiment bien exprimé une des vérités là aussi qu'on lit tous les temps mais qu'on écoute à peine, c'est-à-dire notre monde commence par les arbres et notre monde commence par les plantes, car c'est grâce aux arbres que nous pouvons respirer l'oxygène qui nous tient en vie, et c'est grâce aux arbres que la majorité des êtres, des animaux supérieurs trouvent leur énergie. C'est-à-dire, au fond, c'est grâce à la présence des arbres et des plantes qui sont capables de capter cette lumière solaire qui est la première source d'énergie que nous pouvons faire tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les arbres nous disent ce que c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est cette espèce d'étrange commerce secret de lumière où chaque vivant cherche cette même lumière que les arbres sont capables de capter par leur corps directement.
Au fond, les arbres, c'est le plus direct. Les arbres, ils captent la lumière directement et nous, c'est ce qu'on cherche.
Voilà.
Enfin, nous, les vivants, on capte la lumière d'animaux morts, en fait. Ou de végétaux.
Voilà, exactement. Il y a des pages très, très belles dans la botanique russe du début du siècle dernier qui disent un peu ce que le messie,
notre auditeur,
vient de dire. C'est-à-dire, les arbres ont cette capacité cosmique d'insuffler font cette lumière dans les corps minérales, dans la chair minérale de Gaïa. Et donc, c'est eux qui nous donnent à chaque fois, qui vivifient cette planète et qui nous donnent cette lumière qu'on n'arrive pas à capter directement avec nos mains ou avec nos instruments.
On va se mettre à envier les arbres autour de la question pourquoi nous les arbres. Nouvelle question à rebours, cette fois-ci un peu à l'envers, soulevée par Caroline Tourbe de Science et Vie.
On entend beaucoup parler des arbres, de leur importance dans la culture, la civilisation. Et qu'en est-il des cultures et des civilisations qui ont grandi et sans arbres? C'est-à-dire ou dans des zones désertiques ou dans des zones où il y a un peu de broussailles, mais pas d'arbres vraiment. Est-ce qu'on connaît des différences? Le fait de ne pas avoir d'arbres autour de soi modifie quelque chose? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça s'analyse?
Vous avez une réponse à cette question de Caroline Tourbe. Est-ce que quand on grandit sans arbres, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des peuples qui ont pu grandir sans arbres? Puisqu'on voit bien que le lien est très fort entre nous et les arbres.
Alors, je ne suis pas un anthropologue qui est capable de passer en revue toutes les cultures du monde, mais je dirais que non, parce que tout d'abord, on n'a pas besoin de se mettre en face d'un arbre pour avoir un contact avec lui. Il suffit de respirer pour avoir un contact avec tous les arbres de la planète. Donc, on n'a pas besoin d'aller en Amazonie pour être en contact avec les forêts amazoniennes, donc, d'une certaine manière.
Mais rien qu'en respirant, voilà, c'est grâce aux arbres.
Et de l'autre côté, ce qu'on oublie toujours, c'est que, en fait, deux choses. Tout d'abord, l'espèce humaine, selon les dernières recherches, est une espèce qui est née sur les arbres. Nous sommes des êtres arboricoles, c'est-à-dire, on peut le dire, parce que notre corps a été sculpté par les arbres. Le fait qu'on oppose les pouces, c'est pour mieux attraper les branches. Le fait qu'on a les yeux sur les mêmes côtés
devant,
du crâne,
de la
devant,
face.
C'est pour... Parce que si on vit sur les arbres, on a bien besoin de connaître la profondité de l'espace, sinon on tombe. Donc, au fond, notre corps a été sculpté une fois par les arbres. Et une autre chose qu'on oublie, c'est que les arbres sont les débuts de la technique humaine. En fait, depuis les 19e siècle, on est habitué à mesurer la naissance des outils techniques sur les maniements de la pierre, mais on a oublié qu'avant même de manier la pierre, on maniait les bois, sauf que les instruments en bois sont beaucoup moins résistants aux
Donc les archéologues ne les trouvent pas. Termes,
oui, mais les maniements techniques du monde commencent avec ce corps à corps avec les arbres qui nous a permis petit à petit d'accumuler un certain nombre de connaissances sur les mondes. En fait.
Mais alors comment expliquer, enfin je ne sais pas s'il faut l'expliquer, mais comment expliquer finalement qu'on ait oublié tout ça, qu'on le redécouvre aujourd'hui avec la biologie, avec la génétique, en faisant des découvertes sur les arbres, comment expliquer finalement, dans cette exposition on voit le travail de tous ces peuples d'Amazonie, leur dessin, leur représentation, qui considéraient l'arbre comme un vrai sujet. Comment est-ce que ça se fait qu'on a oublié si longtemps et qu'on a tant de mal, enfin que ça bouleverse tant de choses de prendre l'arbre comme sujet et pas seulement d'en faire une mode, ça va me faire du bien d'aller me embrasser un arbre.
Hein. Il y a un préjugé tout d'abord scientifique mais aussi politique. On oublie aussi, prenant les cas des populations amazoniennes, ce sont des populations qui n'ont jamais abandonné la forêt. Au fond, la cohabitation, la ville occidentale part de cet exil volontaire de la forêt. Forêt, ce qu'on appelle forêt vient du latin foris, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur d'eux. Donc la ville, c'est-à-dire l'espace et de la cohabitation, c'est toujours pensé en opposition par rapport aux arbres considérés comme une multitude. Donc nous avons pensé notre cohabitation en opposition des arbres.
Avec les arbres.
Ouais, donc d'une certaine manière, cet oubli n'est pas un hasard, c'est ce sur quoi toute notre civilisation politique s'est construite. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette expo ou toute cette mode aura un sens si elle pourra modifier la manière dans laquelle nous pensons la ville, en fait. Si on arrivera, c'était un peu, par exemple...
Si c'était votre thème, vous avez travaillé sur les arbres dans la ville.
La première salle de l'expo était cette volonté de penser une forêt post-naturelle ou une cité qui coïncide avec une ville qui coïncide avec la forêt, on devra repenser la ville comme une forêt et la forêt elle-même comme une ville, en fait. Donc on devra trouver une manière de repenser ces deux choses. Ça semble très abstrait, mais ce n'est pas du tout. Par exemple, prenons un cas récent, je ne sais pas si vous avez jamais vu ces tours qui ont été construits à Milan, qu'on appelle la forêt verticale. Mm-hmm. C'est par un architecte italien qui s'appelle Stefano Boeri, qui a donc fait des tours, des gratte-ciel, dont les premiers habitants ne sont pas des humains, ce sont des arbres, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour aller en forêt, il ne faut pas sortir de la ville, il faut juste rentrer chez soi. Donc symboliquement, c'est hyper fort. Tu dis, tu vas où ? Ben, je vais en forêt, je rentre chez moi. Donc, et de l'autre côté, ce qui est intéressant aussi de ce monument, parce que c'est pas juste, c'est un monument, c'est au fond d'avoir pris le modèle iconique par excellence de la modernité, la tour, les gratte-ciel, et de le remplir d'art et de la transformer en forêt. Donc de dire, on ne doit pas revenir aux populations pré-moderne ou non-occidentale.
C'est pas un retour en arrière, c'est une autre manière de réinventer la cohabitation.
L'expo était vraiment censé axer là-dessus. La forêt n'est pas notre préhistoire, c'est notre futur, en fait. Et donc, c'est la modernité qui doit devenir forêt il ne faut pas penser la forêt comme une préhistoire, en fait.
La forêt, notre futur, la forêt, notre préhistoire aussi, parce que c'est quand même les deux dans cette exposition. Nous, les arbres, il y a des magnifiques œuvres des peuples amazoniens, donc qui considéraient les arbres ils considèrent toujours les arbres comme des sujets, comme c'est compliqué de vous les faire voir à la radio, chers amis auditeurs. On vous propose de les écouter avec cette chanson des forces de la forêt, enregistrée dans l'état de l'Acre au Brésil, à la frontière de la Bolivie et du Pérou, la chanson des forces de la forêt de la tribu Yawanawa sur RFI.
Autour de la question. We'll be right back.
la chanson des forces de la forêt amazonienne sur RFI, c'est pour vous. Emmanuel Ecochia, autour de la question pourquoi les arbres ont de quoi nous inspirer, d'autres manières d'être, d'habiter la terre et un autre futur aussi, un autre avenir, peut-être meilleur. Nous sommes donc en votre compagnie, vous êtes philosophe Emmanuel Ecochia, auteur entre autres de La vie des plantes, petite métaphysique du mélange. Je propose tout de suite un nouvel éclairage, comment dire, décentré, décalé sur nous, les arbres. C'est celui du professeur Vincenzo Piazza et des neurobiologistes et psychiatres. Il était récemment notre invité pour son excellent ouvrage intitulé Homo Biologicus. Pierre Vincenzo Piazza, une question pour vous, Emmanuel Ecochia, une question, comment dire, à tiroir et qui nous interroge dans tous les sens sur nous, les arbres. On l'écoute.
Je suis impressionné par les arbres. En fait, quelque chose que j'essaie de dire parfois, c'est que la supériorité de l'être humain, il est relatif aux paramètres qu'on choisit. Hein? Donc, si on choisit les capacités cognitives, on gagne. Mais si on choisit toutes les autres caractéristiques que normalement on utilise pour dire que quelqu'un il est beau, il est fort, il est supérieur, que c'est la résistance aux maladies, l'auteur, la longévité, la grandeur, ben c'est les arbres qui arrivent toujours en tête. Quand on regarde comment les arbres vivent, ils ne bougent pas beaucoup et ils sont très en équilibre avec tout. Et donc, on pourrait se poser la question si beaucoup de courants philosophiques de type spiritualiste, quand vous regardez la méditation, essayent de nous mettre dans des conditions similaires à celles des arbres. Donc, est-ce que la dimension spirituelle qui nous échappe ne serait pas celle des arbres ?
Que pouvez-vous répondre à cette drôle de question soulevée par le neurobiologiste Pierre Vincenzo Piazza et Emmanuel Ecochia ?
Oh, c'est une très très belle question et c'est une question très très vaste. Donc, c'est sûr que l'arbre figure de n'importe quel patrimoine mythologique ou spirituel, même
religieux,
surtout chrétien. Il suffit de penser à la religion chrétienne. En fait, l'arbre figure dans les toutes premières lignes de l'Ancien Testament. Et donc, c'est évident que...
L'arbre de vie, enfin. C'est...
Exactement, je pensais à ça. Et du coup, c'est sûr que ça a été un modèle pour penser une vie qui n'est... Comme il y a d'un côté, on a cette tradition qui a fait de l'arbre une vie inférieure, mais il ne faut surtout pas oublier, lorsqu'on parle de l'arbre comme fait culturel, qu'à côté d'Aristote ou de Platon, il y a eu quand même un énorme archive de textes, d'idées, des pensées qui ont fait de l'arbre un modèle de vie spirituelle supérieure, donc, et qu'on a reconnu depuis toujours...
Avec ses racines, avec ses fleurs, enfin c'est vraiment le...
Mais aussi cette capacité, parce que l'arbre...
Et entre ciel et terre, enfin,
voilà, exactement,
c'est ça.
Cette capacité de médier entre le ciel et terre et de vivre les deux, parce que ce qui est bizarre et drôle pour nous de la vie d'un arbre, c'est que c'est un corps scindé en deux, dont l'un est complètement souterrain, et dont l'une des parties est complètement souterraine et l'autre est complètement aérienne. Donc il est à la fois un ver et un oiseau d'une certaine manière, il est à la fois solaire et complètement géologique en fait. Et il arrive donc dans son propre corps à faire la médiation entre ciel et terre, beaucoup plus que n'importe quel autre vivant. Peut-être c'est le seul être vivant qui arrive à composer ces deux éléments, l'espace solaire astronomique et l'espace terrestre dans son corps. Et d'ailleurs, ce qu'il fait, une autre chose qu'on oublie toujours, et qui en fait peut-être l'être spirituel par excellence, c'est que, en fait, parce qu'on parlait du fait que les arbres et les plantes captent la lumière terrestre...
L'énergie du soleil.
La lumière solaire, et la donne, comme la stocke dans leur corps, et la donne aux autres animaux. Mais on oublie que cette lumière solaire... c'est un élément extraterrestre. En fait, grâce aux arbres, d'une certaine manière, notre vie est la chose la plus extraterrestre qu'il y ait sur Terre. Parce que tout ce que nous faisons a sa source en dehors de la Terre, en dehors de la planète, en fait. Donc, même de ce point de vue, ils sont quelque chose de divin et de transcendant, en fait. Et ils rendent transcendante notre vie. Mais sans vouloir même pas, comme il y a c'est une affirmation, c'est un pur fait, ça.
Oui, c'est un fait matériel, en fait, biologique.
Matériellement, grâce aux plantes, notre vie, et à cause du fait que toute la vie animale supérieure se base d'un point de vue comme chaîne alimentaire sur les végétaux, donc notre vie est
basé à un fondement extraterrestre, d'une certaine manière, à la lettre, en fait. Cette lumière.
Donc, pas besoin de chercher de la vie extraterrestre, mais sur Terre, on a la vie des arbres qui nous enseigne. Est-ce que vous rêveriez d'être un arbre? Est-ce qu'au fond, ça ne serait pas un idéal?
Ça serait génial, parce que, par exemple, voilà, l'arbre, c'est aussi, d'une certaine manière. Moi, je dirais qu'un arbre, c'est non seulement il pense, il sent, il est à moi, mais il est beaucoup plus moi que moi-même. Et parce qu'ils doivent multiplier, tous les arbres doivent multiplier leurs propres organes. En fait, ils n'ont pas d'organes, ils doivent. Par exemple, les fleurs, c'est la preuve évidente. Nous, on a juste un sexe. Les arbres, comme ils sont fixes, ils sont probablement attaqués par les autres, ils doivent multiplier leurs propres fonctions. Donc, même les cerveaux, ils n'ont pas un cerveau, mais donc ils multiplient la fonction cérébrale partout. Donc, c'est une vie d'une intensité incroyable, donc c'est génial.
Sauf qu'ils n'écrivent pas de livres, ils ne sont pas philosophes, les arbres.
Mais l'écriture, c'est un défaut, c'est, comment dire, d'une certaine, c'est les symptômes d'un défaut. Les arbres incarnent ce que nous, on doit arracher à travers des heures et des heures de souffrance à
l'écriture. C'est tout gagné, finalement, voilà, hein, tout de suite. Merci beaucoup, Emmanuel Ecoccia, d'être venu partager en direct cette passion pour les arbres et puis le fait que ça change tout pour nous, même si on n'en prend pas encore la mesure tout à fait. Pour en savoir plus, en tout cas sur nous, les arbres, c'est le titre de cette exposition actuellement à la Fondation Cartier jusqu'au 10 novembre, avec notamment une installation nocturne pendant toute une semaine d'artistes dans lesquels les arbres vont prendre figure du 15 au 20 octobre et nous observer, hein, on va se retrouver observés par les arbres. Et puis une des dernières nuits de l'arbre sera la vôtre avec une artiste, ce sera le 4 octobre prochain. Emmanuel Ecoccia, vous allez être avec une artiste, une...
Christine Rébé, une actrice française qui fera un film d'animation, qui est une très très grande artiste. Donc, je suis très heureux.
Ce sera un film d'animation en forme de respiration, hein. Breathe in, breathe out. Merci beaucoup, c'est donc à suivre à la Fondation Cartier. Je rappelle aussi votre ouvrage La vie des plantes, petite métaphysique du mélange, qui est paru aux éditions Payot Rivage. Vous revenez quand vous voulez, Emmanuel Ecoccia, avec nos arbres.
Merci beaucoup, Carole.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour continuer de nous poser de grandes questions sur nous et les autres, en compagnie d'un autre philosophe, Frédéric Worms, membre du Comité consultatif national d'éthique, à l'heure où nos députés s'interrogent sur les lois de bioéthique autour de la question « Quelle place pour l'humain ?» pour aujourd'hui et pour demain, avec Nicolas Benita à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité. Dans quelques instants, ce sera à l'heure d'un prochain journal. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles.